Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je ne sais pas si vous avez remarqué la très belle oraison de ce cinquième dimanche après la Pentecôte. Elle est particulièrement remarquable. Je vous la relis. Deus qui diligentibus te bona invisibilia preparasti. Dieu qui avait préparé à ceux qui vous aiment des biens invisibles. Infunde cordibus nostris tui amoris affectum. Infusez dans nos cœurs l'affection de votre amour. Ut te in omnibus et super omnia diligentes, afin que vous aimant en toutes choses et par-dessus toutes choses, promissiones tuas, quae omne desiderium superant consequamur, nous obtenions l'effet de vos promesses qui surpassent tout désir. Les oraisons des dimanches après la Pentecôte sont parmi les plus belles du missel, exprimées dans des formules ramassées, vous en avez un bel exemple aujourd'hui, elles sont très riches de sens et elles contiennent en résumé toute la doctrine catholique de la grâce. Alors voyons un petit peu en détail cette oraison de ce cinquième dimanche après la Pentecôte. Le premier mot, c'est « Deus ». Les oraisons du missel s'adressent à Dieu. Avant de demander quoi que ce soit, elles élèvent nos âmes vers Dieu et nous le font contempler. C'est lui que l'Église adore et honore dans toutes ses oraisons. C'est lui qui est l'objet de toutes les pensées et de toutes les affections de l'Église. Il y a là une leçon qu'il nous faut retenir. Elle est très importante. C'est un enseignement pour toute notre vie spirituelle. La piété catholique est, comme disent les théologiens, théocentrique, tournée vers Dieu, et pas d'abord vers l'homme et ses besoins. Il ne faut pas renverser l'ordre des choses. C'est Dieu qui est notre maître et notre seigneur, notre créateur et notre sauveur. Il n'est pas à notre service. C'est nous qui devons être à son service, qui devons être dévots, c'est-à-dire dévoués au service de Dieu. L'homme n'est pas le centre, il n'est pas au centre de l'univers. La création, Dieu l'a faite sans doute pour l'homme, mais c'est Dieu qui en est l'auteur. Tout ne tourne pas autour de l'homme, et donc l'homme doit s'humilier devant Dieu. C'est la première condition de la prière, l'attitude d'esprit fondamentale requise pour bien prier. Et voyez comme les oraisons du missel, de ce point de vue-là, sont d'une pédagogie extraordinaire. Alors l'oraison continue. Deus qui diligentibus te, à ceux qui vous aiment. C'est la deuxième condition. Pour pouvoir s'adresser à Dieu comme il faut et obtenir de lui ce qu'il veut nous donner, il faut l'aimer. Dieu n'est pas comme une corne d'abondance, une espèce de fausse providence au sens où on l'entend aujourd'hui quand on parle de l'État-providence. Nous sommes des assistés, il suffit de tirer la corde et puis ça tombe. Ou du moins, on pense que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Facilement, nous croyons que tout nous est dû et que Dieu doit se plier à nos caprices. Nous attendons de lui qu'il nous exauce en tout et tout de suite. Mais en fait, en exigeant cela, nous ne commençons pas par obéir à sa volonté, par faire ce qu'il attend de nous. Autrement dit, nous ne l'aimons pas. Vous vous souvenez que dans l'Évangile, quand notre Seigneur parle de la charité, de l'amour que nous devons avoir pour Dieu, il nous dit que celui qui l'aime, c'est celui qui accomplit sa volonté, qui accomplit ses commandements. Or, trop facilement, nous ne gardons pas les commandements et il faudrait que Dieu exécute tous nos caprices. C'est le monde à l'envers. Alors vous voyez comme ces premiers mots situent les choses à leur vraie place. D'un côté, Dieu, notre Père, notre Créateur, notre but, et puis d'un autre côté, nous-mêmes, humbles créatures qui devons aimer Dieu, qui devons reconnaître son souverain domaine sur nous. Et c'est cela qu'il faut d'abord considérer. C'est comme cela qu'il faut considérer les choses. La liturgie, vous voyez, est une école de vérité. La vérité, c'est cela. Donc il faut aimer Dieu. C'est le premier commandement, le plus fondamental. Rien ne peut se faire sans cela. Et donc il est bon pour nous de nous faire un petit examen de conscience et de se demander, est-ce que nous aimons vraiment Dieu de toute notre âme? Alors, que fait Dieu pour ceux qui l'aiment? Eh bien, il leur prépare des biens invisibles. C'est ce que dit l'oraison. Bona invisibilia preparasti. Vous avez préparé des biens invisibles pour tous ceux qui vous aiment. Il faut bien peser les mots. Tous les mots sont importants ici. Les biens invisibles. En effet, parmi les biens que Dieu nous donne, il y a d'abord des biens visibles, des biens matériels, extérieurs, comme les richesses ou le pain de chaque jour. Et puis il y a aussi des biens corporels, comme la santé, la force, la beauté. Ces biens, d'une certaine manière, nous sont communs avec les animaux. Il y a aussi des biens invisibles, mais naturels, qui peuvent être partagés par les bons et par les méchants, comme la science. Les méchants peuvent être savants, ou l'amitié, ou tous les talents naturels. Tous ces biens sont déjà des dons de Dieu, et il faut veiller à en faire bon usage en les rapportant à la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas de ces biens-là dont parle l'oraison de cette messe. Au-dessus de tous ces biens, il y a des biens que Dieu ne donne pas à tous, mais uniquement à ceux qui l'aiment, c'est-à-dire en d'autres termes, à ceux qui sont dans sa grâce, en état de grâce. Ces biens, ce sont les biens surnaturels, et de fait, ils sont invisibles. Ce sont les biens de la grâce, ici-bas, et ceux de la gloire, de la vision béatifique, au ciel. Mais ces deux biens ne sont pas de nature différente. La grâce n'est que le prélude de la gloire. Alors, si on veut énumérer ces biens, nous pourrions dire, c'est d'abord la foi. La foi, c'est un don de Dieu. On ne peut pas se donner à soi-même la foi. C'est aussi le don de savoir aimer Dieu par la charité, la science de Dieu, la science de l'amour de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est aussi le pouvoir de devenir enfant de Dieu, comme dit saint Jean dans l'évangile, le prologue de son évangile que nous lisons à la fin de chaque messe basse. Ce pouvoir d'être enfant de Dieu, c'est la participation à la vie même de Dieu, c'est la définition même de la grâce. Et puis enfin, c'est le don de la vision de Dieu face à face, tel qu'il est en lui-même, mais ce don est réservé pour la vie future. Eh bien, c'est à ces choses, à ces réalités-là, à ces biens-là que nous devons aspirer. Ce sont ces biens dont nous devons avoir soif. C'est ce que l'Évangile dit, « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, c'est-à-dire de sainteté, car ils seront rassasiés. » Il faut demander ces biens pour nous et pour tous ceux que nous aimons, et même pour tous les hommes. Mais ces biens que Dieu a préparés pour ceux qui l'aiment, nous ne pouvons pas les atteindre, ni même les désirer tout seuls, sans la grâce de Dieu précisément, parce que ce sont des biens surnaturels. Et par nos forces naturelles, nous ne pouvons en aucun cas accéder à des réalités surnaturelles. Ce n'est pas possible, c'est d'un autre ordre. Alors l'oraison continue, « Infunde cordibus nostris tui amoris affectum ». Remplissez, déversez dans nos cœurs l'affection de votre amour. Infusez dans nos cœurs l'affection de votre amour. La grâce, on dit qu'elle est infuse précisément, c'est-à-dire qu'elle est versée par Dieu dans nos âmes au jour de notre baptême. Et ensuite, il faut que ce petit germe qui nous est donné au jour de notre baptême grandisse. Comme le dit l'Évangile, c'est cet arbre, ce grain de sénevé, qui est appelé à devenir le plus grand des arbustes du potager dans lequel les oiseaux du ciel viennent faire leur nid. C'est là le point principal de cette oraison, c'est le cœur. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors sans doute, nous pouvons faire des choses au plan naturel. Nous sommes capables de faire quelques biens naturels, même sans la grâce de Dieu. Encore que nous ne pouvons pas, sans la grâce de Dieu, à cause du péché originel, accomplir tout le bien naturel, même naturel. Il n'est pas possible, sans la grâce de Dieu, que nous échappions complètement au mal, même dans l'ordre de la loi purement naturelle. Alors a fortiori, quand il s'agit des biens surnaturels, sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons absolument pas atteindre ces biens surnaturels. Sans Dieu, nous ne pouvons aimer Dieu. C'est ça que ça veut dire. Bien que notre cœur soit fait pour aimer, qu'il ait un besoin inné d'aimer, il ne saurait, depuis le péché originel, se porter de lui-même à l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible. Dans les confessions de saint Augustin, il y a à cet égard des témoignages qui sont extraordinaires. Quand saint Augustin était encore jeune étudiant à Carthage, il raconte lui-même l'ambiance de ce monde étudiant, qui était guère plus florissant, enfin guère plus moral que le nôtre aujourd'hui. Et il parle lui-même de la, des amours qui bouillonnaient dans ce... Donc on comprend bien ce que ça veut dire. Et alors lui-même fait cet aveu. Il n'était pas baptisé encore. Il vivait dans le péché même à ce moment-là. Amare amabam, j'aimais aimer. Il avait dans l'âme, dans le cœur, ce désir d'aimer et d'être aimé. C'est quelque chose qui nous est naturel, ça. Mais ce n'était pas encore le vrai amour. C'est plus tard, simplement, quand il se convertira, qu'il pourra enfin découvrir ce véritable amour. Alors, quand il écrit ça, c'est bien longtemps après sa conversion, il le dit avec une certaine amertume. Il constate que son cœur de jeune homme, qui était épris d'amour, se portait vers des amours désordonnés, des amours vicieux. Et en effet, la chute conséquente au péché de nos premiers parents a été si grande qu'il nous est impossible non seulement de nous relever tout seuls, mais même d'en avoir le désir, même d'en avoir la pensée. Alors il faut demander à Dieu. Infunde cordibus nostris tui amoris affectum. Il faut demander. Pour avoir la grâce, il faut la demander. C'est vraiment le cœur de notre raison, c'est le plus important. Le mot infunde ici, c'est un impératif. On supplie Dieu de verser dans nos âmes la grâce et la charité dont nous avons tant besoin et qui seul peut rassasier nos âmes. Parce que de lui-même, notre cœur irait chercher au-dessous de lui les objets de ses affections. Et ça, nous en avons tous l'expérience. Et en faisant ainsi, nous ne faisons qu'aggraver notre mal et accélérer notre chute. Alors Dieu, pour nous relever, nous met lui-même au cœur l'amour dont il veut être aimé de nous. Et alors nous pouvons l'aimer. Nous pouvons l'aimer comme il veut être aimé, d'un amour surnaturel. Mais vous voyez que pour cela, il faut que Dieu nous aime le premier. C'est lui qui a l'initiative. Il faut qu'il nous rende aimants, capables d'aimer, d'aimer surnaturellement. C'est exactement ce qu'on veut dire quand on parle de la grâce sanctifiante. Le mot latin par lequel on exprime la grâce sanctifiante, c'est la grâce qui est gratum faciens, qui rend, qui fait agréable, qui nous rend agréable à Dieu, qui nous permet d'aimer Dieu. Vous voyez, c'est un don de Dieu, ça. Pour aimer Dieu, il faut que Dieu nous donne la grâce de l'aimer comme il faut. Et c'est exactement ce que l'oraison va nous exprimer ensuite. Dieu nous ayant donné les moyens de l'aimer surnaturellement, il peut désormais nous commander de l'aimer et de l'aimer plus que tout. Ut te in omnibus et super omnia diligentes. Voilà, on en vient à la demande proprement dite. Pour que, vous aimant en toute chose et par-dessus toute chose, cet amour que nous recevons de Dieu et que nous lui devons, c'est lui qui nous l'a donné, et nous devons lui rendre cet amour devient la règle et la fin de tous nos amours. Nous pouvons désormais et nous devons aimer Dieu en tout, in omnibus, en tout. Tout ce que nous aimons, c'est ça que ça veut dire, tout ce que nous aimons, nous devons l'aimer de l'amour que nous avons pour Dieu. C'est-à-dire à cause de Dieu et en vue de Dieu. C'est pas évident. Et d'autre part, nous ne devons rien préférer à l'amour de Dieu. Nous devons aimer Dieu par-dessus tout. Ne rien mettre au-dessus de l'amour de Dieu. Le bon Dieu ne condamne pas les amours humains, mais il demande que ce soit hiérarchisé. Que tous s'orientent vers lui, parce que notre cœur est fait pour ça. Et que si ce n'est pas ainsi que les choses se trouvent, eh bien il y a forcément un désordre et nous sommes malheureux. Alors on pourrait se dire, peut-être, c'est exagérément totalitaire. Le bon Dieu, quand même, a des exigences qui sont redoutables. Mais non. parce que précisément c'est cela seul qui peut nous procurer le vrai bonheur. Le rassasiement parfait de toutes nos aspirations les plus élevées, elle n'existe pas ailleurs, autrement. Nous sommes faits pour cela. Dieu nous a créés pour cela et vous voyez qu'il nous donne lui-même les moyens d'y parvenir. Alors c'est ce qu'exprime la dernière phrase de notre oraison. C'est toujours la proposition finale, la demande, pour que promissiones tuas quae omne desiderium superant consequamur, pour que nous obtenions les biens que Dieu nous a promis et qui surpassent tout désir. Si nous agissons ainsi, comme nous venons de l'expliquer, eh bien nous obtiendrons ces biens invisibles que Dieu nous a préparés de toute éternité, qu'il veut pour nous parce qu'il nous aime et parce qu'il veut pour nous des choses extraordinaires qu'on n'imagine même pas, ce sont des choses qui surpassent tout désir. On est incapable par nous-mêmes de voir la beauté, la grandeur de ces réalités auxquelles Dieu nous destine. Et c'est exactement ce que notre Seigneur enseigne à la Samaritaine dans l'évangile de Saint Jean. Vous vous souvenez, si tu savais le don de Dieu, hélas, nous n'en prenons pas bien conscience. Même nous, chrétiens baptisés, si tu savais le don de Dieu. Notre Seigneur insiste, celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. La soif, c'est la manière par laquelle l'Écriture sainte exprime le désir de Dieu. Si notre soif se porte sur l'eau matérielle, l'eau du puits, l'eau que la Samaritaine était venue puiser au fond de ce puits, alors cette eau-là ne peut nous rassasier. Ce désir restera toujours insatiable, parce que les choses humaines sont incapables de combler l'âme humaine. Mais si c'est l'eau vive que Dieu seul peut donner, alors oui, notre âme sera parfaitement rassasiée. Au fond du cœur de tout homme, il y a une soif, la soif de l'infini. Cette soif, c'est quelque chose que l'homme ne peut arracher de son cœur. Dieu lui-même l'y a mise comme sa marque de fabrique. Vous connaissez la parole de saint Augustin, elle est au début des confessions. « Fecisti nos ad te », il s'adresse à Dieu. « Vous nous avez fait pour vous, ad te ». Et alors, il continue, « Et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il se repose en vous, in te ». Pour être en paix, en repos, pour ne pas connaître d'inquiétude, d'insatisfaction, il faut se reposer en Dieu. Et toute notre vie chrétienne consiste précisément à se reposer de plus en plus en Dieu, à préparer notre ciel, où ce sera le repos éternel, le repos parfait. Vous voyez qu'il faut bien comprendre qu'il y a une différence essentielle entre ces deux désirs, le désir de la nature et le désir que Dieu fait naître dans notre âme par sa grâce. Plus cette différence est essentielle. Plus on possède le bien suprême, Dieu, plus on l'aime et plus on le préfère à toute chose, plus on est capable d'aimer Dieu par-dessus tout. Parce que plus on possède ce bien surnaturel, Dieu lui-même, mieux on le connaît. En le possédant, on va mieux le connaître. Et donc on va grandir et dans la connaissance et dans l'amour de ce bien. Le cœur, en quelque sorte, se dilate, s'agrandit. À l'inverse, pour les biens temporels, quand on les a, quand on les possède, eh bien on s'en lasse. On les cherche, on les veut, on les désire, on est même insatiable, et puis quand on les possède, on s'en lasse. Et du coup, on en cherche d'autres. Il y a une insatisfaction qui demeure toujours. On n'est jamais satisfait. C'est le cas de l'avare. L'avare veut des sous, il cherche des sous, il accumule des sous, et tout ce qu'il a, il ne les utilise pas. Il s'en lasse, il s'en désintéresse, il en cherche d'autres. Dès qu'on a goûté au bien temporel, on en constate la pauvreté et l'indigence. Alors la recherche des satisfactions temporelles, voyez, est en quelque sorte quantitative. Elle s'exerce en extension. Il en faut toujours plus. Alors que le désir des biens surnaturels, lui, est qualitatif. Il croît en intensité. C'est le même amour de Dieu qui s'approfondit jour après jour. Et cela a amené, plus exactement, saint Thomas à faire des considérations très intéressantes sur cette différence entre la soif des biens naturels et la soif des biens surnaturels. Saint Thomas remarque que dans l'ordre et l'exercice naturel de nos facultés, il n'y a pas besoin de posséder un bien pour le désirer. Il suffit de le connaître. Il faut le connaître, ça c'est nécessaire. On ne peut désirer que ce qu'on connaît. Mais pour les biens naturels, il suffit de les connaître en général. Et ça suffit pour les désirer. Il n'y a pas besoin de les posséder. Et dès qu'on les possède, au contraire, on ne le désire plus qu'on possède. On désire autre chose, quelque chose de plus. Encore une fois, les choses s'exercent selon l'extension dans le domaine du désir naturel. Alors que dans l'ordre de la grâce, au contraire, il ne suffit pas, et ça c'est très profond, il ne suffit pas de connaître une réalité pour la désirer. Il faut encore en posséder quelque chose, la posséder en quelque manière pour qu'elle meuve le désir. Vous voyez, il y a quelque chose en plus ici. Il faut déjà un peu connaître surnaturellement le bon Dieu pour désirer surnaturellement le bon Dieu, pour désirer l'avoir davantage. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire d'être riche pour désirer la richesse. Même généralement, on désire la richesse quand on n'est pas encore riche. Il n'est pas nécessaire d'être en bonne santé pour désirer la santé. Mais pour vouloir les biens surnaturels, pour vouloir la sainteté, pour vouloir une vie d'oraison plus profonde, pour vouloir les vertus surnaturelles, pour vouloir une plus grande charité, pour vouloir les dons du Saint-Esprit, il faut déjà les posséder dans une certaine mesure et les goûter. Si on ne goûte pas ces choses-là, on ne les désire pas. Celui qui est spirituellement malade, c'est un constat que tous on peut faire. Celui qui est spirituellement malade souhaite d'autant moins la santé spirituelle qu'il en aurait plus besoin. Combien de gens autour de nous aujourd'hui sont parfaitement indifférents aux choses de Dieu, alors que pourtant ils sont comme nous, ils sont faits pour ça. Mais ils ignorent tout de ça, ils ne possèdent pas la grâce. Alors c'est quelque chose qui pour eux est un monde étranger, un monde qui n'importe pas. Les anciens païens avaient déjà vu ça, ils l'avaient compris. Le païen Ovide, c'est pas un père de l'Église Ovide, hein, c'est pas un maître, loin de là, disait « Ignoti nulla cupido ». On ne désire pas ce que l'on ignore. Pour celui qui est ignorant, il n'y a pas de désir. C'est vrai dans l'ordre naturel. Il faut connaître les choses pour les désirer. Mais c'est beaucoup plus vrai dans l'ordre surnaturel. Parce que là, il ne suffit pas simplement de connaître, il faut en plus déjà posséder un petit peu quelque chose. Il faut avoir le germe. Et c'est pour ça que c'est très important de donner le baptême aux enfants. C'est pour ça que c'est très important d'entretenir cette vie de la grâce, pour qu'elle grandisse chaque jour un peu plus. Et c'est pour cela que Dieu lui-même nous donne quelque chose de ses biens surnaturels dès ici-bas. Il nous donne une première grâce et cette première grâce en appelle d'autres. Et si nous négligeons cette première grâce, si nous n'y faisons pas attention, si nous l'étouffons, eh bien le processus ne peut pas se déclencher. Cette première grâce est celle qui va déclencher en quelque sorte la soif de Dieu. Et cette soif va aller en s'approfondissant toujours plus. Non pas en cherchant des objets nouveaux, mais en cherchant toujours à mieux pénétrer jusqu'à l'intime Dieu et ce qu'est Dieu. Voilà. Alors, la conclusion, elle est très simple. Il faut le demander. Parce que la grâce nous est donnée que dans la mesure où on la demande. C'est la condition. Et c'est pour ça que la prière est très importante. Il y a un lien très fort entre la grâce de Dieu, la soif de Dieu et la prière. Et c'est pour ça que saint Augustin disait que l'âme de la prière, c'est le désir. Si on ne désire pas, on ne prie pas. Et si on ne prie pas, on ne désire pas. Alors, c'est ce qu'il nous faut demander. Gardons ce petit adage. Quoique venant d'un païen, il est d'une certaine manière très profond si on l'applique à notre vie surnaturelle. Ignoti nulla cupido. Ce sont des merveilles que le monde de la grâce. Demandons à Notre-Dame qu'elle nous fasse un peu mieux goûter ces merveilles et que surtout elle nous fasse bien prier pour que chaque jour le désir de Dieu grandisse un petit peu plus dans notre âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.